La clé pour la porte, prêchée le 9 octobre 1962 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. C'est un privilège d'être au Tabernacle. C'est un peu inattendu pour moi aussi, mais sachant que c'était le soir de la communion, j'aime toujours, si je suis aux alentours, venir pour la communion. Parce que c'est, je crois que tous les chrétiens devraient participer et prendre la communion. Parce que Jésus a dit, si vous ne le mangez pas, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors c'est toujours un grand privilège de venir au Tabernacle. Et ainsi ce soir, frère Neville a dit qu'il était un peu enroué et il aimerait que je parle à notre congrégation. Je lui ai dit que je serais enchanté de le faire. Je voudrais aussi annoncer que si demain soir, c'est la réunion des hommes, des administrateurs, demain soir, les hommes d'affaires ici dans l'église, ils ont leur réunion régulière du lundi soir et nous avons une décision à prendre avec l'entrepreneur. Je suppose que vous avez tous compris que maintenant nos papiers sont passés et nous allons pouvoir bâtir l'église. Et autant que je sache, cela commencera cette semaine. Et ils nous ont refusé cela ici à Jeffersonville. Mais nous sommes allés à Indianapolis, à l'État. Et alors ils nous ont donné la permission et ainsi nous allons la construire. Alors cela commencera cette semaine. Ce sera connu après la réunion demain soir. Et ensuite, après la réunion demain soir, s'il ne commence pas cette semaine, si quelque chose arrive, et que l'entrepreneur ne puisse pas commencer cette semaine, alors il commencera la semaine suivante. Et dans cette fin de semaine, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, de la prochaine semaine, de samedi et dimanche qui vient, Dieu voulant, j'aimerais avoir une série de 3 réunions, comme nous avons vu il y a quelques semaines. Et ensuite, ce sera donc samedi soir et ensuite dimanche matin et ensuite dimanche soir. Cette semaine, ce sera le 13 et le 14 de ce mois. Et ensuite, quelques-uns des frères et moi-même, nous allons partir après ce temps-là dans le Colorado pour une partie de chasse. Et ensuite, nous reviendrons. Et si le tabernacle, lorsqu'il sera terminé, si c'est la volonté de Dieu, je veux prendre peut-être une semaine entière avant de quitter à nouveau dans les réunions extérieures pour avoir les 7 sceaux de l'Apocalypse. Juste avant, comme nous avons eu les 7 âges de l'Église, maintenant, les 7 sceaux suivront cela. Et probablement dans les prochaines 2 ou 3 semaines, parce que je crois qu'ils prétendent, avec l'homme qui va bâtir, que nous pourrons bâtir le tabernacle et l'avoir d'environ 10 jours ou 15, quelque chose comme cela. Alors nous aurons de la place pour asseoir environ le double des gens que nous avons, ou le triple, peut-être, plus de gens. Et c'est la manière que vraiment j'attendais ce temps-là. Parce que le dernier samedi et dimanche était merveilleux, vous savez. Les gens se tenaient là à 2 heures de l'après-midi pour remplir le tabernacle avant même que l'église ne soit ouverte. Et le matin suivant, à 5 heures, une infirmière qui demeure tout proche de chez moi, venant de là-bas, elle m'a dit, il y avait une masse de gens qui étaient tassés tout autour du tabernacle à 5 heures du matin le lendemain. Alors, les gens, lorsqu'ils entrent, il n'y a pas de place, et ils se découragent, et ils s'en vont. Et ensuite, ceux qui se tiennent debout et qui sont entassés, ils sont congestionnés, dans les allées, ils se sentent tout plein de crampes, et tout cela, je vois des femmes qui se tiennent là, pleines de transpiration, vous savez, comme cela, la transpiration leur coule sur le visage, sur elles, et un homme abandonne, donne sa chaise à une certaine femme, et ensuite, il se tient là jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal et quelqu'un d'autre lui donnera sa place. Vous savez, c'est vraiment dommage. Et des mères avec des petits-enfants malades et ainsi de suite, c'est vraiment dommage. Alors nous allons essayer d'éliminer cela maintenant en bâtissant un plus grand tabernacle. Et nous aurons un bon lieu où les enfants, quelquefois, vous savez, ils interrompent comme des petits-enfants qui pleurent. Eh bien, nous aurons une pièce pour cela, afin que les mères puissent y entrer, voir le service quand même, et il sera diffusé directement dans la pièce. Et nous aurons des pièces pour l'école du dimanche, et tout sera conforme à la manière que cela doit être. Et cela, si le Seigneur le veut, aura lieu dans la semaine qui vient. Vous avez tous voté à 100% pour cela. Alors nous avons tenu à cela, voyez-vous. L'Église est souveraine. Ce que dit l'Église, c'est cela qui tient. Administrateur ou quoi que ce soit d'autre, Les administrateurs ont chacun d'eux une voix, chacun d'eux. Le pasteur a seulement une voix. C'est l'Église. C'est la démocratie de l'Église. La souveraineté de l'Église. L'Église en entier parle. Et c'est tout. Et nous aimons cela parce que nous n'avons pas d'évêque ou de hiérarchie ou de surveillant et ainsi de suite pour nous dire ceci ou cela ou quoi d'autre. C'est le Saint-Esprit dans l'Église qui parle. Et j'aime ce règlement et c'est très bien. Et j'ai demandé, vouliez-vous tous attendre jusqu'à ce que nous ayons assez pour déménager le tabernacle et bâtir une grande église? C'était sur le comité des administrateurs. Et il ne pouvait pas être réglé par les administrateurs. Et ensuite, ils m'ont demandé, comme surveillant général, de venir demander à l'Église. Alors j'ai dit, maintenant nous aurons suffisamment d'argent pour augmenter la grandeur de l'Église, l'arranger différemment, et tout, autrement que nous l'avions. Mais j'ai dit, maintenant nous pouvons faire cela tout de suite, ou alors épargner notre argent jusqu'à ce que nous en ayons assez pour monter une Église au complet, une nouvelle quelque part ailleurs. Et nous avons pris un vote pour cela à l'Église. Et cela a été voté à l'unanimité pour monter l'Église tout de suite. Et c'est juste bâtir une plus grande Église maintenant. Et le comité ici à Jeffersonville nous a refusé l'autorisation. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas le faire. Nous avons surmonté cela. Nous sommes allés à Indianapolis et nous avons obtenu de l'État de le faire. Et ensuite, ils nous ont fait parvenir un mot. Allez-y. Nous avons donc le droit de bâtir. Alors la ville n'a rien à faire avec cela maintenant, c'est l'État qui doit le faire. Alors nous avons la permission et l'entrepreneur a le permis dans sa main droite maintenant et je pense qu'ils sont prêts à commencer en tout temps. Demain soir, si l'entrepreneur dit qu'il veut commencer la semaine prochaine, alors je vais simplement omettre les réunions jusqu'à ce que nous arrivions au 7 saut. Et ensuite, si l'entrepreneur ne peut pas commencer la semaine prochaine, alors le prochain dimanche, samedi et dimanche, j'aurai les réunions avant de partir. Et aussi, j'étais pour avoir des réunions ce dimanche-ci, et j'ai constaté que ce soir, c'est le soir de la communion. Alors, j'ai omis la réunion de dimanche-ci, parce qu'avec une telle foule, on ne peut pas prendre la communion confortablement, alors lorsque nous aurons la plus grande église, nous l'aurons. Maintenant, nous avons un président qui vient. Vous savez ce que je veux dire. Cela fut délivré justement à la famille Itterson il n'y a pas longtemps. Et notre sœur qui est pianiste, si elle veut bien venir et nous jouer un petit accord sur le piano, amenez-les, si vous voulez bien, ou quelques petites chansons de ce genre. Ce gentil petit jeune homme de la famille Itterson, il est attendu depuis si longtemps. Eh bien, il est arrivé. Eh, c'est un petit gaillard très bien. Il est sûrement un bijou pour les Itterson. Et ils sont tous des bijoux pour nous. Nous les aimons, qui sont vraiment notre frère et notre sœur. Et nous sommes reconnaissants d'avoir ce petit qui est né dans leur famille, qui a absolument révolutionné la famille. Et si le père et la mère veulent bien amener ce petit gaillard maintenant pour la consécration, maintenant, l'Écriture nous dit, ils lui ont apporté des enfants, des bébés, afin qu'il leur impose ses mains sur eux-mêmes et qu'il les bénisse. Maintenant, il y a des gens dans le monde qui croient au baptême des enfants. Et c'est-à-dire qu'ils prennent ces petits beaux hommes et ils ne les baptisent pas du tout, car ils les aspergent d'eau et c'est tout. Maintenant, nous ne trouvons pas cela nulle part dans la Bible. Où ils auraient déjà aspergé n'importe qui, des adultes et encore moins des enfants. Alors, le baptême est une confession qui est une œuvre intérieure de grâce qui a déjà été faite. Et les petits bébés n'ont aucune connaissance du péché. Alors, lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour enlever les péchés du monde. Et lorsque le bébé devient un être humain et qu'il est né dans ce monde, ils n'ont pas de péchés à eux. Alors, ils n'ont aucune repentance à faire. Mais le sang de Jésus-Christ enlève ce péché. Bien sûr, le bébé est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Il vient au monde en racontant des mensonges et ils sont des pécheurs de nature. Mais le sang de Jésus-Christ expie pour cela. Mais lorsque le bébé est arrivé à l'âge de responsabilité ou de raison, il sait ce qui est bien et mal. Alors il doit se repentir de ce qu'il a fait. Son péché maintenant est un péché tout comme il est né dans le péché. C'est le péché humain. Le péché maintenant, c'est le péché qu'Adam et Ève ont fait. Et cela fut omis par Dieu par le sang de Jésus-Christ. Alors le bébé n'a pas de péché dont il a besoin de se repentir jusqu'à ce qu'il pêche. Ensuite, il doit se repentir. Voyez-vous? Et lorsqu'il se repent, alors c'est le moment de se faire baptiser. Et alors il est baptisé par immersion. Jusqu'en ce temps, nous avons suivi les instructions de la Bible, qui est, ils ont apporté à Jésus des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et les bénisse. Et ces bons parents ce soir amènent ce petit bébé au pasteur et à moi-même pour la dédicace. Et ils sentent que de le placer dans les mains des représentants de Christ, ils le placent dans les mains de Christ. Alors par la foi, nous amenons le bébé à Dieu pour rendre grâce de l'avoir amené ici et demander à Dieu de le bénir, ce que nous appelons la dédicace ou consécration des enfants. Maintenant, vous savez combien je serai heureux à propos de mes propres enfants. J'ai une petite fille dans la gloire ce soir. Elle fut consacrée au Seigneur ici même à l'autel. Et j'ai un petit garçon et une petite fille assis ici en arrière qui n'ont pas encore été baptisés. Une a 11 ans. Je lui en ai parlé aujourd'hui à Sarah à propos du baptême. Et Joseph a seulement 7 ans. Alors il est trop jeune pour cela encore. Jusqu'à ce que... Mais s'il le désirait et s'il disait que Dieu le mettait sur son cœur, alors je le ferais. Mais en tant que bébé, je fais simplement ceci, les consacrer au Seigneur, car c'est l'enseignement biblique de cela. Frère Neville, si vous voulez bien venir marcher avec moi vers ce beau garçon, Frère Branham s'approche de Frère et Sœur Ikerson, note de l'éditeur. Je craignais, est-ce Olin? Oui, Olin Junior. Stéphane Olin. Eh bien, c'est bon. Mais je pensais qu'il dormait. C'est la nature des Ikerson. Quoi qu'il se passe, lorsque je l'ai vu l'autre jour, j'ai dit le président, et ainsi de suite. Et bien sûr, il était trop petit pour cela, je parle de lui comme un président. Bien, comment allez-vous? Eh bien, je sais que c'est sûr, sûrement, c'est vraiment un trésor pour n'importe laquelle qui soit une mère sainte. Ne le pensez-vous pas? C'est très gentil. Et maintenant, frère Ikerson et sœur Ikerson, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, j'amène ce bébé par la foi dans les bras de Jésus-Christ, dans lequel vous désirez le placer dans ses bras. Ainsi dans nos têtes, pendant que le pasteur et moi-même, nous tenons ici avec nos mains sur le bébé. Notre Père Céleste, dans la Bible, ils t'ont amené des petits-enfants, afin que tu leur imposes les mains sur eux et que tu les bénisses. Et vraiment, Seigneur, ils ont été bénis. Et maintenant, pour suivre ton exemple, les choses que tu as faites, nous avons essayé de notre mieux en lisant la Bible et suivant l'exemple tout comme tu l'as fait. Et ce père et cette mère, frère et sœur Ikerson, nos bien-aimés disciples, ici dans ce tabernacle, nous amènent ce petit brin de joie que tu as placé dans leurs soins. Il vient de toi, Seigneur. Tu leur as donné cet enfant. Et maintenant, il désire te donner sa petite vie, afin qu'il soit à ton service. Je prie que tu bénisses cet enfant, et que tu lui donnes une longue vie, qu'il puisse vivre, si c'est possible, pour voir la venue du Seigneur, qu'il puisse vivre, si c'est possible, de telle manière que tu le bénisses où qu'il soit élevé dans un foyer chrétien, puisqu'il est né dans un tel foyer chrétien, et qu'il puisse continuer dans ce foyer. Que le père et la mère vivent afin de voir ce bébé à la chair, si c'est possible, prêchant l'évangile. Ils préféreraient le voir ainsi plutôt au père que sur le trône ou dans la maison blanche ou n'importe où ailleurs, parce qu'ils sont tes serviteurs et ils désirent que la vie du bébé soit une consécration et une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, je prie, Père, que tu bénisses l'enfant et que la grâce de Dieu vienne sur lui, et qu'il soit en santé et heureux pour le reste de sa vie, et que le Père et la Mère vivent pour le voir grandir. Nous te le demandons encore, bénis celui que nous bénissons en ton nom. Et maintenant, petit Stephen Olin Ikerson, je te donne à Jésus-Christ, afin que les bénédictions que nous avons demandées puissent venir sur toi. Sois en santé et fort, mon petit frère, et puisses-tu vivre pour glorifier Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ne serons jamais vieux, non, jamais vieux, dans la terre où nous ne serons jamais vieux, non, jamais vieux, non, jamais vieux, dans la terre où nous ne serons jamais vieux. N'est-ce pas que ce sera merveilleux? Les jeunes seront des adultes et les vieux seront jeunes. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et nous ne serons jamais malades, et nous n'aurons jamais de peine, et nous ne mourrons jamais. Maintenant, les services, Frère Neuville les a annoncés. Je veux annoncer maintenant que cette réunion, et ne l'oubliez pas, les réunions dont il a parlé. Ainsi, une Madame Ford qui venait à l'église il y a des années, je viens tout juste de l'amener à sa fille il y a quelques jours. Elle a 80 ans. Elle alla rencontrer le Seigneur hier soir à 8h, je pense. Et les services, le pasteur et moi, nous les ferons à Coutts, mercredi à 10h30, ce mercredi qui vient. Madame Ford, je crois, je ne me souviens pas ce qu'était son... Lévi, Madame Lévi Ford, c'est la mère de Lloyd Ford, dont vous avez entendu parler dans mon livre. Vous savez, il devait me garder ce costume de scout et il ne me restait qu'une jambière. C'est la mère de ce garçon. Alors je l'ai amenée l'autre jour et j'ai prié avec elle, la pauvre. Et elle a rencontré le Seigneur Jésus. Maintenant, si Dieu le veut, j'ai quelque chose ici que je voudrais annoncer. Que les services, s'ils viennent pour cette prochaine semaine, si je les ai placés ici, ou du moins je crois que je l'ai fait, à propos... Je devais parler pour ce service qui vient la semaine prochaine. Je pensais que je l'avais inscrit dans ce livre. Je ne sais pas si je l'ai fait ou non. Dieu voulant, samedi soir, je veux prêcher sur le sujet « Pourquoi l'influence d'un homme sur la vie d'un autre ?» Et dimanche matin, je veux prêcher sur « Coiffer la pyramide ?» Et dimanche soir, je veux prêcher sur « Mon guide » pour ce dimanche soir qui vient. Maintenant que Dieu bénisse ces choses et me vienne en aide, parce que j'ai dû partir et j'ai juste un petit contexte pour les accorder. Maintenant ce soir, je veux me dépêcher et avoir quelque chose. En passant, j'ai une lettre qui vient d'arriver par le courrier, comme Billy la prenait il y a juste quelques moments, qu'il y a des frères qui sont au Michigan, et ceci vient de l'association ministérielle et qui a beaucoup de choses. C'est ce qui me donne beaucoup de scrupules dans les choses, voyez-vous? Ils prétendent ici que certains frères là-bas, qui disent que je les ai envoyés là-bas, et ils prêchent que les hommes devraient quitter leurs femmes et aller à la recherche de leur mari spirituel, et que je suis parfaitement infaillible, et qu'il n'y a rien. Oh, et les choses les plus affreuses que vous n'ayez jamais entendues. Et l'association ministérielle s'en est emparée, et ils m'écrivent une lettre à propos de cela, et que je les aurais envoyés là-bas, et cela cause beaucoup de confusion. Et quelques-uns ont prophétisé disant que cet homme devrait laisser cette femme et aller marier cet autre-là. Maintenant, cette Église sait que nous n'accepterons jamais de telles sottises que cela. Nous croyons en la Bible. Nous croyons que lorsqu'un homme prend une femme, c'est sa femme. Et la mort seulement peut les séparer. Seulement cela. Nous ne croyons pas dans de telles sottises comme cela. Nous ne croyons pas en l'amour libre non plus. Nous ne croyons pas en ces choses. Nous croyons absolument dans la Bible, et seulement cela. Alors je vais juste la photocopier, copier cette lettre, et lui donner ma réponse, et la placer dans les journaux, et ça devrait régler la chose. J'espère que ça le fera du moins, et que ce sera une réponse pour eux. Maintenant ce soir, juste avant d'ouvrir les Écritures, parlons encore à notre Seigneur. Notre Père Céleste, nous approchons ton trône de miséricorde, au nom du Seigneur Jésus, ce grand être qui est descendu de la gloire pour nous dévoiler les richesses et trésors de Dieu. Comme nous te remercions pour ce glorieux Jésus, qui était la manifestation de Dieu, fait personnellement à nous, et par lui nous sommes rachetés de nos péchés, et nous sommes maintenant passés de la mort à la vie parce que nous croyons en lui. Car il est écrit de lui qu'il a dit, « Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Bénis tes paroles ce soir, Seigneur, et nous sommes ici pour prendre la communion dans quelques instants. Les chrétiens, les citoyens du royaume vont se réunir autour des autels, et là ils prendront ce que nous appelons la communion. cette petite portion de sacrement que tu nous as laissée pour nous montrer que tu es mort pour nos péchés et que tu es ressuscité le troisième jour et que tu vis à jamais, et de faire ceci jusqu'à ce que tu reviennes selon les Écritures comme nous sommes commandés. Sanctifie nos cœurs des mauvaises pensées et de tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta grande volonté. Père, pardonne-nous et donne-nous de ta grâce ce soir. Brise pour nous maintenant le pain de vie dans la parole, comme nous la lisons et que nous en parlons. Au nom du Seigneur Jésus, nous le demandons. Amen. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, commençons avec un seul verset, et je désire lire le verset 20, ou le premier verset du 20e chapitre. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Maintenant, je désire parler, si c'est comme cela, si je dois appeler le texte comme ceci, ou prendre un contexte de ce texte pour les prochaines 20 ou 25 minutes, je voudrais appeler cela la clé pour la porte. Maintenant, je ne désire pas dire les clés, parce que les clés du royaume furent données à Pierre. Mais je veux appeler ceci la clé pour la porte. Et immédiatement après ceci, je voudrais donner quelques commentaires sur la communion avant de la prendre ce soir. Maintenant, une clé. J'ai remarqué ici en lisant que cet ange descendit du ciel, ayant la clé dans sa main. Je crois que c'est Apocalypse 13 ou 19, nous trouvons encore un autre ange venant avec une clé. Et une clé, c'est... Le but d'une clé, c'est de déverrouiller quelque chose qui était enfermé, ou c'est quelque chose qui devrait être enfermé, mais une clé est donnée dans ce but. Maintenant, il y a plusieurs sortes de clés, parce que nous avons plusieurs utilisations pour les clés. Il y a les clés pour les magasins, il y a les clés de votre propre maison, il y a les clés de votre automobile, et nous disons les clés, et ce sont des clés, elles peuvent être copiées plusieurs fois, ou pour la maison, on peut parfois faire ce que l'on appelle une clé crochet ou un rossignol. En d'autres mots, c'est une clé qui est faite de manière, avec certains leviers, qui agissent, qui tournent la serrure d'une certaine manière, et ça peut déverrouiller n'importe quelle porte, quasiment. Et on appelle cela la clé rossignol. Cela a une monture de plusieurs clés. Elle peut déverrouiller cela. Nos maisons, même nos automobiles, peuvent être déverrouillées ainsi. Et ensuite, il y a une clé ne peut pas déverrouiller la porte à moins qu'elle soit utilisée par une main. Il doit y avoir quelque chose pour utiliser la clé. La clé en elle-même ne peut pas s'utiliser elle-même. Il doit y avoir quelque chose pour dégager la clé. C'est comme ce micro dans lequel je parle. Ce micro est muet. À moins qu'il n'y ait quelqu'un qui parle au travers du micro, il ne peut pas parler par lui-même. Alors ce n'est pas le micro, c'est la voix ou le bruit qui est derrière le micro que le micro transmet à la vase d'air et à votre oreille. Maintenant, c'est de cette manière que nous prêchons l'Évangile. Ce n'est pas nous-mêmes en tant que ministres, nous ne sommes pas l'Évangile, mais nous sommes seulement des émetteurs qui transmettent la voix de Dieu au travers de notre agence d'homme à l'écouteur. Une vision, c'est la même chose. Je ne sais pas quoi dire à l'Église en ce temps concernant une vision, mais si le Saint-Esprit me montrait d'abord une vision, alors je transmets cette vision à celui vers qui elle est dirigée. Alors la vision, ce n'était pas moi, c'était Dieu qui donne à la vision, et j'ai agi comme émetteur afin d'apporter le message de la vision au peuple. Maintenant, une clé, c'est la même chose. Pardon, la clé doit être tenue dans une main qui déverrouille la porte, voyez-vous? Il doit y avoir une main. Maintenant, et dans la clé dont je vais parler ce soir, il n'y a qu'une main qui peut tenir cette clé, et c'est la main de la foi. C'est la seule chose qui puisse tenir cette clé. Et des mains tiennent d'autres clés, mais cela prend la main de la foi pour cela. Maintenant, prenons la clé de la connaissance. Alors un homme doit, s'il veut accumuler de la connaissance, voyez-vous, il y a une clé pour cela. Il y a une manière dont cet homme doit s'ouvrir. Il doit en être ainsi. Il doit avoir des livres et tout son savoir. Il ne peut pas, aucun ne peut lui apprendre. Ils peuvent peut-être l'enseigner, mais lui doit apprendre. Et de la seule manière que cela puisse être fait, il doit saisir cette clé, quelque chose dont cela se développe ou lui révèle la connaissance qu'il cherche. Il y a des gens, disons, qui voudraient essayer de jouer du piano ou de la musique. Ils ne savent pas exactement comment faire, mais ils peuvent aller là et le professeur pourrait prendre leçon après leçon et ils ne l'apprendraient jamais. Ils ne peuvent simplement pas tenir cette clé ou ce mystère et comment le rythme, les sons de l'accord et toutes ces choses sonnent. Cela demande la clé et les mathématiques. Il y a une clé pour les mathématiques. Vous devez absolument y trouver le tour. J'ai vu des hommes qui pouvaient prendre 4 rangées de chiffres et juste descendre la rangée comme cela pour peut-être 5 ou 6 figures de profondeur et placer la réponse en bas. Figurez-vous cela, 4 rangées à la fois, n'importe où et de 1 à 9. Eh bien, moi-même j'ai de la difficulté à me figurer une seule rangée, à moins d'avoir assez de doigts ou d'orteils pour compter afin de me figurer une seule rangée. Je n'ai jamais pu trouver cette clé. Mais voyez-vous, il y en a qui ont tout simplement cette clé. Ils savent comment le faire. Et il y a une clé pour la connaissance. Un homme qui cherche la connaissance. Il y a une clé pour la science, les recherches scientifiques. Maintenant, ça, c'est une grande clé. Les gens recherchent cette clé. Comme ici, il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé un atome. Ils savaient qu'il y avait des atomes. Et ensuite, les atomes ont formé des molécules, et ainsi de suite. Alors, ils ont commencé à rechercher. Quelqu'un croyait que si cet atome tenait tout ensemble, si l'atome pouvait être tourné, cela prendrait ce que cela tient et ça le briserait, car tout est soutenu par des atomes, nous savons cela. Le gazon, les arbres, tout est soutenu par des atomes. Eh bien, si cet atome tourne tout d'un côté, s'il peut être brisé et retourné, alors il détruirait. Et maintenant, de grands scientifiques croient que cela pourrait être fait. Ils ont travaillé. Ils ont mis heure après heure, semaine après semaine, année après année, jusqu'à ce que finalement, ils aient vaincu. C'était, je crois, Thomas Edison à propos de la lumière. Il disait que l'homme avait la connaissance qu'il pouvait faire de l'électricité la lumière. Il est l'inventeur de la lumière électrique. Et il ne voulait même pas se coucher le soir. Il prenait un sandwich dans sa main, il mangeait son repas, il s'asseyait là, et il s'imaginait les choses, il travaillait. Quelque part, tout au fond de sa pensée, quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. Qu'est-ce? C'est une clé qui peut ouvrir le chemin. Il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, il y avait un homme qui croyait qu'il avait le talent pour écrire des bandes dessinées. Il croyait qu'il tenait la clé dans sa main. Et il vivait au Kansas. Il alla chez l'éditeur du plus grand journal à Kansas City. Et il amena quelques-uns de ses écrits. Et l'éditeur lui dit, « Monsieur, vous ne l'avez tout simplement pas. Ce n'est pas la peine d'essayer, vous ne pouvez pas le faire. » Mais cela ne l'a pas satisfait. Il savait qu'il l'avait. Il retourna encore et encore essayant. Mais l'éditeur le refusait. Finalement, il est allé à d'autres endroits. Ils l'ont refusé, disant, « Monsieur, mais vous ne l'avez tout simplement pas. Vous ne pouvez pas le faire. » Mais malgré tout, il croyait qu'il pouvait le faire. Et c'est de cette manière. Il avait quelque chose dans sa main. Finalement, il a fait un ouvrage. Cela consiste à écrire des petits manuscrits pour, l'éditorial ou quelque chose pour une église, une sorte de petite bande dessinée pour l'église. Et il se loua un petit rat ou un garage infesté de souris, où les souris se promenaient partout et tout, jusque dans ses draps. Et il commença à remarquer une particularité d'une certaine petite souris. Et c'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Maintenant, il est multimillionnaire. Walt Disney, pourquoi? Il avait quelque chose dans sa main. Il savait qui le tenait. Il savait qui pouvait le faire. Et c'est comme cela que chaque grand accomplissement est fait. Lorsque les hommes et les femmes ont quelque chose dans leurs mains, qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Lorsque la polio a frappé la nation, nous sommes tous maintenant ordonnés de recevoir ce vaccin afin d'éliminer. Mais lorsque la polio a frappé, hier j'écoutais un docteur, alors que je voyageais sur la route, un docteur de Louisville. Il dit à la radio, il y a quelques années, lorsque la grande plaie frappa Louisville, il dit, si un homme se serait tenu où je me tenais, et voir 57 appareils de respiration en même temps, et des hommes, des femmes, des garçons, des filles paralysés avec une maladie appelée polio, rien ne pouvait être fait pour cela. Il dit, je ne veux plus jamais voir une telle chose. Mais la science a pensé, s'il y a une telle chose mauvaise comme la polio, il doit sûrement y avoir quelque chose pour la contrecarrer. Ils ont combattu, Ils se sont tenus dans les rues avec leurs bottes, les pompiers, ils ont sorti leurs chapeaux, ils ont fait la quête, ils ont quêté, ils ont tout fait, essayant de trouver la clé pour déverrouiller la porte de la liberté. Et finalement, un jeune homme chrétien du nom de Saul a trouvé le vaccin. Pourquoi ? Il y avait de la méchanceté en jeu, il y avait un tueur en jeu, mais il y avait une clé quelque part qui pouvait déverrouiller la liberté à nouveau pour l'homme. Et le vaccin Salk était le grand traitement. Oh, ce que la clé peut faire! Le vaccin fut apporté. Maintenant, il élimine la polio avec ce vaccin parce que c'était un jamais fatigué, jamais se lasser. Et cette clé gisait quelque part. Il y avait quelque chose qui pourrait être inoculé contre cela. Et ils étaient déterminés de le trouver. Et s'il y a de telles méchancetés ou choses mauvaises, comme la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, etc., ainsi de suite, que la science et ces choses mauvaises, ils ont pu combattre jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils trouvent une possibilité d'inoculation de cela, parce que c'est vil, c'est un tueur. Et combien plus y a-t-il une clé pour le salut, pour un homme qui est dans la prison du péché? Il y a une clé pour cette porte, afin de libérer l'homme de cela. Et une clé habituellement, lorsqu'elle tourne dans la serrure, lorsque vous trouvez une clé, ça doit être un trésor, quelque chose qui en vaut la peine, sinon vous ne prendriez pas la peine de le verrouiller. Si ça ne vaut pas la peine de le verrouiller, alors laissez-le aller. Mais lorsque ça vaut la peine de le verrouiller, alors une clé est habituellement la note pour quelque chose, ou la manière d'entrer vers quelque chose qui en vaut la peine. La clé, c'est pour cela. Maintenant, elle déverrouillera quelque chose qui en vaut la peine. Maintenant, lisons Saint Jean, le 10e chapitre. Jésus dit, « Je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte, pas une porte, la porte, la seule porte. Je suis le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Je suis la porte de la bergerie, et tout ce qui vient avant moi, ce sont des ennemis, des voleurs, des escrocs. Il est la porte de la bergerie, il est la porte du salut. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel vous deviez être sauvés, seulement le nom de Jésus-Christ. Pas d'église, pas de dénomination, pas de credo, pas de doctrine d'aucune sorte, seulement par le nom de Jésus. C'est la clé. Pas surprenant que Pierre pouvait en utiliser une le jour de la Pentecôte. Il voulait savoir comment entrer dans cette porte. Il utilisa la clé. Et il n'y a qu'une clé, parce qu'il n'y a qu'une porte. Je suis la porte. Et Pierre en avait la clé. Et il dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les trésors de Dieu. C'est la clé pour la porte. Et Jésus est la porte. Il n'y a qu'une porte pour la guérison, et Jésus est cette porte. Il n'y a qu'une porte vers la paix. Oui, je vous donne ma paix. Vous pouvez accumuler assez d'argent pour vous acheter une maison. Vous pouvez épargner assez d'argent pour acheter des vêtements à vos enfants, avoir de la nourriture pour manger. Mais vous pouvez accumuler assez de popularité pour être populaire parmi les gens. Mais quand vous enlevez vos souliers le soir, et que vous vous préparez à vous coucher, il n'y a qu'une chose qui puisse vous donner la paix. Et c'est, si vous savez que vous étiez en train de mourir ce soir-là, il n'y a qu'une paix. Et c'est Jésus qui est la paix. Il est notre paix. Il est notre guérison. Je suis le Seigneur ton Dieu et je guéris toutes tes maladies. Il est la porte du ciel. Et il n'y a pas d'autre porte ou d'autre chemin que par Jésus-Christ. Il est la porte du ciel. Et maintenant, Jésus est la porte de toutes ces choses, et la foi est la clé qui déverrouille la porte. Maintenant, si Jésus est la porte de toutes ces promesses de Dieu, la foi dans son œuvre accomplie déverrouille chaque porte de chaque trésor qu'il y a au-dedans du royaume de Dieu. Le voyez-vous? La foi est la clé qui déverrouille chaque promesse qu'il a faite. La clé de la foi fait cela. La foi dans son œuvre accomplie. Ce sont ces clés desquelles nous parlons. Maintenant, dans Hébreux, le 11e chapitre, on en a une grande lignée écrite ici de ces héros de la foi. C'était la clé de la porte qui arrêta la bouche des lions. C'était la clé de la foi qui déverrouilla les maisons de prison. C'était la foi, la clé de la foi qui a éteint la violence du feu, qui fit les pieds chapés au tranchon de l'épée, qui ramena des morts à la vie à nouveau. C'était la foi, la clé de la foi dans le Dieu vivant. Cette main, cet homme, cette femme qui peut prendre cette clé de la foi, qui peut déverrouiller chaque promesse de Dieu. Mais si vous n'avez pas cette clé, vous essayez simplement en tâtonnant, vous ne la déverrouillerez jamais, vous frapperez contre elle, parce que cette clé, n'importe quelle clé faite correctement, elle a des leviers, il y a des leviers à l'intérieur de la serrure. Elle prend une certaine forme pour ses clés, afin de tourner ses leviers. Et juste un petit levier hors du chemin, cela va complètement gâcher toute la chose. Donc je crois au plein évangile, chaque parole de Dieu. Cela fait relâcher la puissance de Dieu. Cela fait tourner ses bénédictions vers le peuple. C'est la clé de la porte qui déverrouille cela. Oh, ces grands héros, ces prophètes, ces grands hommes de la Bible qui avaient cette clé. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient arrêter la gueule des lions, éteindre la violence du feu, échapper aux tranchants de l'épée, ramener des morts à la vie et faire toutes sortes de miracles. C'est parce qu'ils tenaient cette clé. Ils savaient qu'elle marchait parce que c'était une clé née des Écritures. Maintenant, si je ne fais que tâtonner avec une clé dénominationnelle, je ne sais pas ce qu'elle va faire. S'ils disent, mon église dit que c'est ceci, et je ne sais pas à propos de cela. Mais quand la Bible l'enseigne, et que je tiens la clé de la foi dans mes mains, ou dans mon cœur, qui dit, c'est la parole de Dieu, cela éteindra la violence du feu. Cela déverrouillera la guérison pour les malades. Cela déverrouillera le salut pour les perdus. Je dois venir à la porte. Tout est en son nom. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Sachant que la clé que vous avez, c'est la foi. Parce que c'est une clé faite par les Écritures. Maintenant, si c'est une clé de credo, une clé dénominationnelle, je ne sais pas ce qu'elle sera. Mais si c'est une clé scripturaire, elle déverrouillera parce que Dieu l'a dit. Maintenant, pas surprenant qu'ils ont pu arrêter la violence du feu et ainsi de suite. Ils avaient la clé. Le premier signe que Dieu donnait à un de ses prophètes, rien ne pouvait les arrêter. Ils n'avaient pas besoin de faire comme il fait pour moi parfois, de me le répéter à nouveau et à nouveau, et peut-être aussi pour vous, j'espère que non, mais il continue à me dire, va faire cela, alors vous tâtonnerez un peu, ensuite va faire ceci, et retourne, va le faire à nouveau, tu ne l'as pas fait correctement. Juste un petit hochement, eux pouvaient sentir l'esprit leur dire, c'est la chose à faire, et rien ne pouvait les arrêter. Frères, ils ont arrêté la bouche des lions, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont éteint le feu, ils ont fait tout cela, juste un tout petit signe venant de Dieu, parce qu'ils tenaient la clé dans leurs mains, cette grande foi. Ils ont fait des choses pour Dieu, parce que rien ne les arrêterait. Oh, comme c'est glorieux! Comme le jeune homme, une fois qui vient vers un vieux frère, qui était un homme vieux et saint, un vieux prophète de Dieu, et il entendit cet homme témoigner constamment, parlant constamment de la bonté de Dieu, et comment Dieu était, et ce qu'était Christ, et continuant à en parler. Finalement, le jeune homme allait être ordonné dans le ministère. Alors il va vers ce certain vieux sage, et lui dit, « Monsieur, je voudrais vous poser une question. » Il dit, « Demande, jeune homme. » Il dit, « Est-ce que Christ, littéralement, représente autant pour vous que vous le dites ?» Il dit, « Il représente plus pour moi que tout ce que je pouvais avoir le souffle de dire. » Nous y voilà. Qu'est-ce que c'était? Il avait trouvé la clé. Et ce jeune homme a dit à propos de cela, « Si vous prétendez ces choses, si vous me dites qu'elles sont aussi vraies que vous, alors je veux connaître ce même Jésus dans la même réalité. » Qu'est-ce que c'était? Il savait que le vieil homme tenait une clé, qu'il pouvait déverrouiller et qu'il pouvait verrouiller. Vous savez, une clé qui verrouille, elle déverrouille aussi, voyez-vous? Vous pouvez délier ou lier, c'est vrai. La même clé qui verrouille, elle déverrouille. La clé qui déverrouille, elle peut verrouiller. C'est exactement vrai, voyez-vous? Parce qu'elle travaille de deux manières. Comme c'est piteux que l'Église ait perdu sa vision de cela. Comme ce fut une triste chose quand l'Église s'est vendue pour des credos, comme nous l'avons fait aujourd'hui, est maintenant juste nous appeler pour nous unir. Nous avons vu où la grande hiérarchie romaine et eux tous vont s'assembler maintenant. Ils vont changer des programmes. Je pensais qu'ils n'avaient pas changé, mais ils vont le faire de toute façon. Donner presque à chaque prêtre le pouvoir d'un pape, où qu'il soit, ainsi de suite. Comme cela est piteux que l'Église se soit vendue à des dogmes au lieu de la parole. Voyez-vous? C'est là qu'ils ont oublié la clé. Là, c'est la raison pour laquelle les grands miracles et les signes ne s'accomplissent plus parmi les gens aujourd'hui, comme il y en avait auparavant. Car ils ont perdu la clé. Oui, ils connaissent la porte. Ils savent que la porte est là. Mais la chose suivante, c'est la clé pour ouvrir la porte. Et les trésors sont derrière la porte. Ils se sont verrouillés eux-mêmes, hors de la vue des incroyants. Mais le croyant qui a la foi et qui peut prendre la clé de la foi peut déverrouiller ses portes. Oui, monsieur. Une fois ici, il y a quelques années, il y avait un frère missionnaire. Il sentait qu'il avait un appel pour aller en Afrique. Il était un jeune homme, avec une femme et deux enfants. Très belles, des jeunes filles environ 7 à 8 ans chacune. Ce jeune homme ne pouvait s'en éloigner. Il était un ministre. Il avait une belle église dans la campagne. Mais il ne pouvait simplement pas s'éloigner de cet appel. Il doit aller en Afrique. Et il pria jour et nuit. Il ne voulait pas y aller. Et Dieu continue à lui parler. Tu dois y aller. Et finalement, il arriva à un endroit où il dut avoir un point tournant, où il dut y aller. Alors, il alla au comité de mission de l'église et il dit, « Dieu m'a appelé dans un champ de mission tout au fond de la jungle de Rhodésie. Et dans cette jungle, c'est infesté de malaria avec la fièvre et le soleil chaud, la peste, la lèpre, toutes sortes de maladies, là au fond de la jungle. C'est là qu'il devait rester le reste de sa vie, vendre sa maison, tout ce qu'il avait. » Alors le comité de mission a voulu le mettre à l'épreuve. Ils lui ont dit, « Êtes-vous bien certain maintenant ?» Il dit, « Je suis positif. » Ils lui ont dit, « Mais monsieur, y avez-vous pensé dans ce sens? Vous avez deux belles petites filles, une charmante épouse, et si vous êtes juste, pourquoi n'y allez-vous pas simplement pour voir comment cela est et ensuite revenir ?» Il dit, « Non, le Seigneur m'a dit. Oh, c'est si vrai !» Il dit, « Le Seigneur m'a appelé. » Et je ne veux pas laisser ma maison, je ne veux pas laisser mon église et mes gens, mais le Seigneur m'a appelé là, dans cette jungle. Et il lui dit, mais monsieur, saviez-vous que vos petites filles pourraient prendre la fièvre jaune ou la fièvre de l'eau noire et mourir le même soir? Et ils se référèrent à différentes personnes qui avaient perdu leurs enfants, des petits bons hommes, pour les avoir amenés là-bas avec des maladies dont ils n'avaient vraiment aucun vaccin. Et ils ont dit, pensez à la lèpre sur votre belle épouse et vos deux petites filles avec la lèpre et ce soleil chaud et toutes ces choses que vous devrez supporter. Ils dirent, n'avez-vous pas peur du danger que représente d'emmener vos enfants et votre femme dans un tel lieu? Et le missionnaire se tint là, le jeune homme, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il s'est tourné, il a dit, mes frères, ma vision de l'appel de Dieu, dit-il, si Dieu m'a appelé en Afrique, mes enfants et ma famille sont plus en sécurité en Afrique que à n'importe quel endroit du monde. Amen. Qu'est-ce que c'était? Il avait la clé de cet appel. Il avait la foi dans ce qu'il professait. Oh, je pensais, quelle merveilleuse remarque. Quand j'ai entendu cela au début, mon cœur a bondi. Voyez-vous, si Dieu m'a appelé en Afrique, mes enfants ont la lèpre et la peste et toutes les autres choses, ils sont plus en sécurité là que dans n'importe laquelle des autres endroits, des autres places ailleurs sur la face de la terre. Il avait la clé. C'est ce que cela prend. Lorsque vous avez la clé, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre à propos de cela. Vous le savez exactement. Vous l'avez dans vos mains, vous savez quoi faire. Amen. Vous savez ce qu'est le compte. Vous savez que la porte va s'ouvrir. Vous avez vérifié les leviers. Vous savez que c'est vraiment la chose vraie. Et la porte va s'ouvrir très rapidement lorsque vous y placerez la clé à l'intérieur. Oh, si l'Église possédait seulement les clés, si l'Église possédait donc cette clé de la foi, nous pourrions déverrouiller n'importe laquelle de ces portes, n'importe quelle maladie, n'importe quel fléau, n'importe quel cas qu'il puisse y avoir. Nous pourrions être vraiment déverrouillés si nous pouvions simplement posséder cette clé. cet homme avait la clé de son appel. Si vous voulez pardonner un témoignage personnel, je me rappelle il y a 15 ou 17 ans environ, lorsque le Seigneur m'a dit là-bas sur la rivière, lorsqu'il est descendu dans cette colonne de feu, telle que vous le voyez dans la photographie, et il m'a parlé, et il a dit, tu dois apporter ce message autour du monde. Et je me rappelle à Greenhill, lorsqu'il m'a parlé, je suis allé le dire au pasteur, et il a dit, Billy, qu'as-tu mangé hier soir? Tu as eu un cauchemar. Il dit, retourne à ton travail. Tu travailles à la compagnie de services publics. Tu as un bon emploi. Retourne et occupe-toi de ton travail, mon gaillard. Il m'a dit, tu as eu un cauchemar. Tu as mangé quelque chose. Mais cela ne m'a pas du tout ébranlé. Lorsque j'ai commencé pour les services de guérison, plusieurs de vous se rappellent mon message ce matin-là. Comme David allait rencontrer Goliath. J'ai prêché sur cela. Et ils m'ont dit, il dit, dans le jour des sciences modernes, alors que nous avons toutes sortes de recherches médicales, alors que nous avons les meilleurs médecins, alors que l'Église a oublié depuis longtemps la guérison divine, et des choses d'il y a bien, bien des années, comment pourrez-vous aller devant un grand géant comme cela? Comment allez-vous sortir de la phase des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, et ainsi de suite, même des pentecôtistes? Car ils l'ont oublié il y a longtemps. Ils sont allés dans leur credo. Comment allez-vous l'envisager avec aucune dénomination ou rien d'autre pour vous appuyer? Qu'allez-vous faire, Bill? Je ne sais pourquoi, mais cela ne m'a pas du tout ébranlé. Car je tenais dans ma main une clé. J'ai dit, ils ont dit, personne ne te croira. Tu ne seras pas capable de le faire. Personne ne te croira. Alors j'ai dit, je m'en moque. Il y a une chose certaine, Dieu m'a appelé. Et je dois y aller parce que Dieu m'a appelé. Je tenais la clé. Il m'avait appelé. Il m'a montré. Il m'avait dit, j'ai vu sa présence quand il m'a commissionné. Et la clé était là. Le pasteur a dit, avec tes 7 ans d'instruction, et tu vas prêcher, prier devant des rois et des monarques. J'ai dit, c'est selon sa parole. Environ à peu près en ce temps-là, l'an dernier ou une semaine ou deux auparavant, quand j'étais venu à l'église ici et que je vous ai dit que le Seigneur Dieu m'avait donné une vision pour m'en aller, pour partir dans un voyage de chasse, et je devais trouver un certain animal qui devait avoir des cornes de 42 pouces de long, et en route de retour pour prendre cet animal, exactement dans quelle position il serait sur le chemin du retour, je devais tuer un ours grizzly avec une tête argentée. Et je suis allé dans cette certaine section là-bas. J'ai parlé à l'homme et il a dit, je ne connais aucun animal qui ressemble à cela. Et en ce qui concerne un ours grizzly, je n'en ai jamais vu ici. J'ai dit, mais il doit être ici, quelque part. Alors il dit, nous en allons même jusque, oh mais ici ce n'est pas encore le territoire des ours. Nous allons vers les brebis là-haut, au-dessus du train de bois. Eh bien, je suis allé avec lui. Et le deuxième jour, à l'endroit même, exactement où le Seigneur avait dit, l'animal était là. Alors, lorsque je suis allé chercher l'animal, lorsque nous enlevions la peau et les cornes et tout le reste, il dit, je vais vous demander quelque chose. Vous m'avez dit, il y a 3 jours, lorsque nous avons quitté le camp, qu'après avoir tiré cette certaine bête, que sur le chemin du retour, vous deviez tuer un ours grizzly à tête argentée. J'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, je ne doute pas. Il dit, parce que mon frère était un épileptique et vous ne l'aviez jamais vu de votre vie lorsque vous étiez ici dans ce temps-là. Et vous m'avez dit que ce garçon serait guéri lorsque je ferais une certaine chose. Et il le fut. Il dit, maintenant, mais frère Branham, je vais vous demander. Il me dit, je puis voir tout le long de cette montagne, jusque là où se trouve le train de bois, les chevaux se tiennent là. Et il n'y a rien là. Il n'y a même pas un brin d'herbe, il n'y a pas une roche, il n'y a rien. De la mousse de caribou qui est d'environ 2 pouces de hauteur au-delà du train de bois, pour 1 mille au-dessus du train de bois. Il dit, alors où sera l'ours? J'ai dit, Dieu est Jéhovah Jiré. S'il m'a dit qu'il y aurait un ours là, il y en aura un là. Et nous descendîmes la montagne. Et chaque fois que nous faisions environ 1 mille ou à peu près, il disait, frère Branham, ce devrait être le temps que cet ours apparaisse maintenant. J'ai dit, ne crains pas, il sera ici. Et lorsque nous étions environ 500 yards d'où se tenaient les chevaux, nous devions nous reposer à nouveau avec les cornes pesantes et toutes ces choses sur nos dos. Et il regardait alentour encore. Et j'ai vu sa face comme il me regardait, tout comme si au fond de son cœur il était émerveillé. Voyez-vous? Il espérait qu'il serait là, mais il n'avait pas la clé. Par contre, par la grâce de Dieu, il ne m'a jamais trompé. Lorsqu'il m'a dit qu'il y aurait un ours à tête argentée là, j'avais la clé. Je n'ai pas douté du tout, pas du tout. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, « Bud, il sera là. » Et juste comme je me tournais, l'ours était là, se tenant juste au-dessus de nous, à environ un demi-mille. Et il se dépêcha à placer les lunettes et il dit, « Billy, saute qui peut, c'est un gros à tête argentée. » Voyez-vous, la clé, une vision, la parole du Seigneur, il n'y a rien qui peut la changer ou l'arrêter. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas d'une éducation. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas d'une dénomination. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas d'un credo. Ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est la clé des Écritures, la porte, desquelles Christ est la porte, et il est la parole. La foi dans la parole du Dieu vivant déverrouille chaque porte. Ô Dieu, donne-nous la clé. Donne-nous la clé. Hébreux, le 12e chapitre dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et l'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. C'est écrit péché, mais le péché c'est l'incrédulité, voyez-vous. Un seul péché, l'incrédulité. Et le péché veut dire manquer le but. C'est comme quand vous tirez et vous manquez la cible. Vous feriez mieux d'ajuster votre fusil, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez manqué le but, voyez-vous. Revenez et essayez de nouveau. Voir veut dire juste changer de direction, car sinon vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir un chrétien et que vous allez vous joindre à une église, vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir un chrétien et que vous avez été aspergé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous avez manqué le but. Vous feriez mieux de revenir, parce que vous ne serez pas sur la cible. Vous vous éparpillerez aussi vrai que le monde. Il n'y a qu'une chose qui puisse vous tenir en ligne parfaite. Ce sont les Écritures, la Bible, la parole. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors tenez la clé, la foi dans la parole. Et chaque parcelle de foi que vous croyez, et vous ne doutez pas du tout, vous pouvez déverrouiller chaque porte qui se tient devant vous et la bénédiction que Dieu a pour vous. Que Dieu vous aide à avoir les clés, c'est ma prière. Inclinons nos têtes maintenant pour un mot de prière. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir que tu nous aies donné une clé pour nous ouvrir le salut. Je te remercie pour cela, Seigneur, que nous sommes sauvés, et pour la clé que nous avons pu utiliser pour venir jusqu'à aujourd'hui. Mais, ô Dieu, donne-nous la foi, que chacune de ces paroles écrites dans ton livre sont des petits leviers, et cette clé appelée Jésus, cette porte, je veux dire, appelée Jésus, est la clé appelée la foi, touche chaque parole et l'ouvre. Qu'elle touche ce petit levier là en bas et nous pourrons entrer dans cette bénédiction. Père Céleste, donne-nous les clés afin que nous puissions avoir la foi dans les promesses de Dieu, afin que notre foi ne défaille pas, afin que nous puissions le servir et ceux avec qui nous sommes associés. Pardonne chaque péché de notre incrédulité, Seigneur. Aide-nous à être à toi. Nous venons maintenant à la table de communion et je prie, Père Céleste, que tu pardonneras chacun de nous de tous nos péchés afin que nous puissions entrer dans la joie de la communion autour de la table de Dieu. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, si vous avez la clé du royaume, la clé de la porte, la clé du salut, que Dieu vous aide à ouvrir les portes et laissez Jésus entrer. Laissez-lui vous donner les choses que vous désirez. Maintenant, juste un moment, avant de commencer à lire ce qui concerne la communion, je veux dire quelque chose parce que c'est sur la communion. Et lorsque nous venons à cet autel, il n'y a qu'une seule manière pour y venir. est celle que nous tenons la clé de la foi dans nos mains, ce qui nous laisse savoir que nos péchés nous sont pardonnés. Et si nous n'avons pas cette clé pour ouvrir cette porte, que nos péchés sont pardonnés, nous n'avons rien à faire à la table du Seigneur. Parce que celui qui mange et boit indignement, boit et mange un jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Maintenant, cela est vrai. Je suppose que nous savons tous qu'aujourd'hui est le jour de communion nationale ici. Aujourd'hui, c'est le jour où toutes les églises du pays prennent la communion. Et c'est la journée nationale de la communion partout dans la nation. Et je pensais que ce serait approprié de dire un mot ou deux sur la communion avant de la prendre, pendant que le pasteur, s'il le veut, en préparant les Écritures, puisse être prêt à la lecture de l'ordre de la table de communion. Maintenant, cette communion, maintenant je vais prendre juste environ 10 minutes, cette communion que nous nous préparons à prendre a été la plus grande dispute de n'importe quelle doctrine de la Bible. C'était l'une de leurs premières disputes dans l'Église ancienne. Et aujourd'hui, les protestants, les épiscopaliens, les méthodistes et plusieurs des églises protestantes accepteront aimablement la doctrine catholique romaine, s'ils pouvaient se mettre d'accord sur cette petite question de la communion. Mais ils seraient d'accord que le prêtre soit marié et soit ministre. L'Église catholique a été d'accord avec cela plusieurs fois dans leurs conférences et leurs réunions. Ils sont d'accord. Ils seront d'accord avec différentes prières, ainsi de suite. L'Église protestante est d'accord avec cela. Et les catéchismes, et ainsi de suite, et le petit autel ici et là, l'Église catholique est prête à le faire. Mais lorsque cela arrive à la communion, c'est là qu'ils ont tombé. N'importe qui a déjà lu l'histoire, sait cela. Mais bien sûr, à ma manière de penser, ils auraient beaucoup de choses dont ils devraient s'éloigner, avant même que je ne puisse l'accepter, voyez-vous, parce que ce n'est pas la Bible. Mais je veux dire une chose à l'Église catholique. Pensez-vous que l'Église catholique était au début l'Église apostolique de la Pentecôte? Certainement qu'elle l'a été. C'était le premier début de l'Église. Et vous voyez où ils en sont maintenant. Ils continuèrent à enlever de la parole et à injecter des dogmes. Et si l'Église pentecôtiste existerait un autre siècle, elle serait plus éloignée de la Bible que l'Église catholique ne l'est aujourd'hui de la manière qu'elle marche maintenant. Cela a pris à l'Église catholique environ quelques centaines d'années pour s'en éloigner. 300 ans de l'Église très primitive jusqu'à l'organisation de l'Église catholique romaine à laquelle ils se joignent. Et ils ont attrapé, ils ont pris de grands dignitaires et ces choses, ils ont coupé ceci, ils ont enlevé cela, ils ont enlevé ceci, ils ont mis cela, ils ont enlevé les idoles païennes et ils ont monté les statues chrétiennes et ainsi de suite. Et ils ont fait des compromis jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qu'ils ont aujourd'hui, l'Église catholique romaine. Mais l'Église protestante pentecôtiste, des 50 dernières années depuis qu'elle existe, d'où elle est tombée, d'où elle a commencé, elle sera en pire état que l'Église catholique dans 100 ans d'ici, c'est vrai. Oh, c'est quelque chose de terrible à dire, mais regardez d'où ils sont tombés. Ils sont allés directement dans l'organisation. Ils ont aussitôt commencé à faire des compromis sur ceci, sur cela, et sur toute autre chose. Et les voilà partis, voyez-vous, retournant en arrière. Mais la communion est appelée le souper du Seigneur. Maintenant, beaucoup de gens veulent le prendre le matin. Cela n'est pas dit du tout dans la Bible. Il n'est pas dit que c'était son déjeuner. Et comment ces gens aujourd'hui, comment peuvent-ils encore dire le souper du Seigneur? Ils ne le font pas. Ils ont coupé la question du souper. Ils l'ont omis. Ils l'ont appelé dîner. Non-sens. Le souper. Maintenant, c'est toujours une dispute dans les temps de la Bible. C'était une dispute alors. Les gens ont mal compris ou mécompris le souper du Seigneur quand ils venaient à la table. Paul l'a dit à ses Corinthiens. Ils venaient, s'enivraient à la table du Seigneur. Voyez-vous, c'était mal compris déjà alors. Il dit, si vous voulez manger, mangez à la maison. Et une autre chose qui était mal comprise, c'était que les pécheurs, un homme vivant dans le péché, venait prendre la communion. Et cela était mal compris. Un homme vivait avec sa mère, sa belle-mère, et l'Église lui en avait parlé, prenant encore la communion à la table. Et il y avait des divisions parmi eux, et ils prenaient quand même la communion. Il dit, je comprends que vous marchez comme le reste des païens.
et il y a des frictions parmi vous, comme il y en a spécialement dans la maison de Séphas, et ainsi de suite. Il dit, vous marchez comme le reste des païens, voyez-vous? C'était mal compris. La communion a toujours été mal comprise. Maintenant, je pourrais parler de cela pendant des heures, mais nous devons arriver à cette communion et à ce lavage des pieds. Maintenant, ils ont simplement omis le lavement des pieds complètement, mais à part quelques-unes de ces dénominations. Beaucoup de pentecôtistes se sont éloignés de cela complètement, voyez-vous? Et c'est encore dans la Bible exactement de la manière que c'était écrit, voyez-vous? Maintenant, Rome n'appelle pas cela la communion, ils appellent cela une messe. C'est une sainte messe. Ils ne prennent pas la communion, ils prennent une messe. C'est une messe. Et une messe, certains prennent la vraie signification de communion. Une messe veut dire espérer. Ils prennent une messe espérant qu'en faisant cela, c'est la messe, que Dieu les pardonnera de leurs péchés en prenant le corps littéral de Christ, que le prêtre change en corps et sang de Christ, prenant cela, espérant que Dieu en mettra leurs péchés en faisant ceci. C'est une messe. Les protestants appellent cela la communion. La communion veut dire action de grâce. Que les protestants, le catholique prend une messe, dans la messe espérant que Dieu leur pardonnera de leur méchanceté. Les protestants le prennent avec action de grâce à cause de ce qui a déjà été fait. Les catholiques espèrent que c'est fait. Les protestants disent que c'est déjà fait. Les catholiques se demandent si leurs péchés sont pardonnés, mais les protestants confessent qu'ils sont pardonnés et qu'il est libre. Et une communion, c'est communier avec Dieu. Et ces espèces que nous prenons, pas en espérance que nos péchés sont pardonnés, mais qu'ils sont déjà pardonnés. Parce que c'est, un, c'est de l'espérance, et l'autre, c'est de la foi. Un espère qu'il a raison, et l'autre sait qu'il a raison. Voyez-vous? L'autre, un espère parce qu'il ne sait pas où il se tient, l'autre sait qu'il a raison parce qu'il sait ce que Dieu a dit. C'est cela, c'est la différence. Alors, lorsque vous espérez seulement, soyez prudent. Mais lorsque vous savez, alors vous allez de l'avant. Voyez-vous? Alors vous êtes en communion avec Dieu. Le protestant, c'est, il dit qu'il est pardonné. Et il le sait. Le catholique à la messe, il espère qu'il sera pardonné. C'est tout à fait comme ceci. L'un est un mendiant, espérant que tout est correct, vous voyez? Et l'autre est un mendiant, remerciant pour ce qui a déjà été fait. Ils sont tous les deux des mendiants. Mais un mendiant espérant qu'il l'aura, et l'autre mendiant sait qu'il l'a, et il le remercie de lui avoir donné. Maintenant, voilà la différence. C'est la communion. Oui, monsieur. Un espère qu'il est pardonné, l'autre sait qu'il est pardonné. Et remercions Dieu pour cela. Alors la communion est pour les chrétiens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Est né de nouveau ne veut pas dire nécessairement que vous ayez le Saint-Esprit. Maintenant, rappelez-vous, maintenant plusieurs enseignent cela. Je ne connais personne qui l'enseigne comme ceci, comme disait frère Argan Braith l'autre soir de la chair ici. Mais la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. L'Écriture ne supporte pas cela. Je ne le pense pas, voyez, à ma manière de le voir. Je crois que vous êtes nés de nouveau, et c'est la raison pour laquelle j'emploie le baptême dans le nom de Jésus-Christ, mais pas pour la régénération. Maintenant, les pentecôtistes, l'Église unie de la Pentecôte, baptisent au nom de Jésus-Christ pour la régénération. Je ne crois pas cela, et ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais je crois que Pierre a dit, « Repentez-vous premièrement, l'eau ne remet pas les péchés. » L'Église de Christ prêche cela de cette manière, mais je crois que la repentance, le saint regret, se repentir veut dire changer de direction, retourner en arrière. Vous avez manqué le but, recommencez à nouveau. Faites cela premièrement. Et votre baptême dans l'eau est seulement une profession extérieure de quelque chose qui a été fait à l'intérieur de vous, que vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Je crois que c'est juste l'Église ici ce soir, pour autant que je sache. Je ne suis pas ici assez longtemps pour savoir qui vient ou ne vient pas, mais j'ai eu une petite critique ici il n'y a pas longtemps, parce que j'ai baptisé un homme ici dans le baptistère, un vieillard, et je suis allé à lui, il était un bon vieil homme. J'ai eu le privilège de conduire toute sa famille à Christ. tous ces chrétiens. Et ce vieil homme était un bon vieux, et je l'aimais. Alors je suis allé vers lui, et je lui ai dit, « Papa, pourquoi ne devenez-vous pas chrétien ?» Et il m'aime. Il dit, « Frère Branham, je deviendrai chrétien quand je pourrai devenir assez bon. » J'ai dit, « Je vais vous dire quoi faire, papa. Regardez autour, jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit où vous pouvez être assez bon. Et ensuite, dites-moi où est cet endroit, parce que je veux y aller aussi. » J'ai dit, « Christ n'est jamais venu sauver un homme bon. Quand vous pensez que vous êtes bon, alors il n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu sauver ceux qu'il sait qui sont méchants. » Voyez-vous? Christ est mort pour sauver les pécheurs. Voyez-vous? Et j'ai dit, « Papa, il y a juste une ligne, juste ici. » Il dit, « Eh bien, je fume des cigarettes. » J'ai dit, « Je ne vais même pas en parler. » Il dit, « J'ai essayé de les abandonner, frère Branham. » Il dit, « Eh bien, lorsque je pourrai, j'ai dit, je ne dis plus rien à propos de cela. Laissez-les aller. Je vais vous poser une question. » Il dit, « Très bien, qu'est-ce ? » J'ai dit, « Croyez-vous qu'il y a un Dieu ?» Il dit, « Certainement, je le crois. Je crois cela aussi fort que vous le croyez, je le pense, frère Branham. » J'ai dit, « Croyez-vous que ce même Dieu a traversé sa peine et fut fait chair et habita parmi nous dans la personne de Jésus-Christ afin de sauver l'homme ?» Il dit, « Oui, je crois cela. Il est mort pour sauver les pécheurs comme vous et comme moi, voyez-vous. Oui, je crois cela. » J'ai dit, « C'est comme ceci. Nous sommes tous dans un bâtiment ici et nous sommes en prison. Et je ne peux pas me tenir dans ce coin-ci et dire, cela m'aidera à sortir de la prison. Je me tiens dans ce coin et je dis, cela m'aidera à sortir de la prison. Nous sommes tous dans le même piège. Et chaque homme qui est né dans le monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en racontant des mensonges. Il est un renégat pour commencer. » Et quelqu'un m'a demandé l'autre jour, il dit, « Frère Branham, y aurait-il une différence entre Adam et Ève et leurs enfants aujourd'hui s'ils étaient tous nus, marchant dans le... Est-ce que leur corps serait pareil ?» J'ai dit, « Non, monsieur. Nous revenions de la chasse à l'écureuil faire près de moi et un groupe d'entre eux. » J'ai dit, « Non, ils ne seraient pas pareils. » Il dit, « Vous voulez dire qu'Ève ne serait pas une femme comme ses filles et Adam ne serait pas un homme comme ses fils ?» J'ai dit, « À bien des points de vue, mais pas au point de vue physique. » Il dit, « Quelle serait la différence ?» J'ai dit, « Ils n'auraient pas de nombril. Ils ont été créés, c'est vrai. Ils n'étaient pas attachés à rien. Et aussi longtemps que cela est sur chaque chose qui est née dans ce monde, cela montre que c'est un renégat pour commencer. C'est vrai. » J'ai dit, « Certainement qu'il y a une différence. Ils n'auraient pas de nombril. Ils n'étaient pas connectés à aucune femelle pour venir ici. Voyez-vous, Dieu les a créés. » Maintenant, j'ai dit, je veux dire quelque chose. Chaque homme dans cette maison de prison, qui est saint? Qui est celui qui n'est pas né par le sexe? Qui est celui qui peut aider l'autre, peu importe ce qu'il est? Nous sommes tous dans cette même prison. Mais Dieu s'est fait une de ses créations et il est venu au-delà du sexe, au travers du sang sacré qui s'est créé lui-même et au travers de ce sang, il nous a rachetés. J'ai dit, croyez-vous cela, papa? Il dit, je crois cela. J'ai dit, Christ est mort pour des mauvais hommes comme vous. Maintenant, il n'y a qu'une manière de le faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il vous l'offre. Vous ne pouvez pas le mériter. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'acquérir. Il vous le donne simplement. Voulez-vous accepter ce qu'il a fait pour vous sauver de l'enfer? Il a dit, je vais faire cela. Il a dit, mais si seulement je pouvais me débarrasser de ces cigarettes. J'ai dit, les cigarettes prendront soin d'elles-mêmes. Vous allez seulement, présentement je ne suis pas un légaliste, je crois en la grâce, et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. J'ai dit, si vous croyez cela de tout votre cœur, il dit, avec tout mon cœur, je le crois. Alors l'acceptez-vous sur cette base que vous n'êtes pas digne de cela, mais il est celui qui est digne. Ne vous regardez pas vous-même, regardez-le lui, car vous ne pouvez rien faire pour vous-même. Regardez celui qui a fait quelque chose pour vous. Qu'en est-il de lui? Oh, dit-il, il est digne. J'ai dit, c'est cela. Alors acceptez ce qu'il vous donne. Il dit, je l'accepte. Et je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Et à peine sorti d'ici, le voilà allumant une cigarette. Il y a quelques semaines, j'étais à sa maison. J'ai eu une vision un soir d'un arbre vert qui se faisait couper et était tourné à l'envers. J'ai vu des planches clouées dessus. Juste à côté de la dernière place était une planche considérable. Et au-dessous de cette planche, tout près vers le bas, courant comme ceci, l'arbre brisa juste là. et une voix m'a dit, cela aurait dû être toi, ou cela aurait été toi. Et Papa Cox est tombé, et il a fracassé son dos ici. Alors le lendemain matin, ils lui ont apporté ses cigarettes quand il était là au lit. Le désir l'avait laissé. Cela fait des semaines, il n'en a plus goûté une seule, il n'en veut même pas une ou rien d'autre, voyez-vous? Et je l'ai vu, autrefois alors que ses mains étaient brunies partout, il y a quelques semaines avec les cigarettes, et maintenant, il ne peut même pas en supporter une autour de lui. Mettez les premières choses en premier. N'essayez pas de devenir bon. Vous êtes méchant pour commencer. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il y a une ligne de séparation, et tous les êtres humains sont de ce côté-là. Maintenant, lorsque je suis né dans ce monde, c'était au travers d'une vie conjugale sainte entre mon père et ma mère. Et en son sein était un œuf, et dans les glands de mon père était une cellule de sang. Ma vie consiste de cette cellule de sang, pas de l'œuf de ma mère, de la cellule de sang de mon père. Et quand cette cellule de sang est allée dans son propre endroit pour rencontrer l'œuf, quand cela est arrivé, la nature a été commandée par Dieu de me donner un corps. Et ensuite, alors que je suis né dans la race humaine, j'ai eu l'occasion de devenir une personne intelligente, comme le sont les êtres humains. Ils peuvent conduire une automobile, ou je peux faire des choses comme le font les êtres humains, marcher, parler, conduire une automobile, et ainsi de suite. Et je reçus cela, parce que je suis né dans la famille humaine, et il me fut donné la puissance de l'intelligence pour être un être humain. Maintenant, lorsque je suis né dans la famille de Dieu, je suis venu par le sang me donna la vie. Et ensuite, après que je sois venu vivant en Christ, il m'a baptisé du Saint-Esprit et de puissance pour être un fils de Dieu. Maintenant, tout comme je peux marcher, parler comme un être humain, conduire mon auto comme un être humain, maintenant, lorsque je reçois le Saint-Esprit, je reçois la puissance pour chasser les démons, pour parler en nouvelle langue, prêcher l'Évangile, guérir les malades. Je suis baptisé, pas né, mais baptisé. Et ils furent réunis dans la chambre haute, priant en son nom. Ils furent baptisés par le Saint-Esprit et la puissance pour le service vain. Amen. Vous croyez à la vie éternelle et vous êtes nés de nouveau par votre foi. Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Par le Saint-Esprit, mais juste la vie éternelle. Il est né dans la famille de Dieu. Et ensuite baptisé en le Saint-Esprit avec le pouvoir de l'intelligence de la foi pour croire à l'Évangile et la mettre à l'œuvre et la faire agir correctement. Amen. Ensuite, il agit comme un fils de Dieu. Ensuite, il peut chasser les démons. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Voyez-vous, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en nouvelle langue. Ils prendront les serpents. Ils boiront des choses mortelles. Voyez. Il reçoit la puissance par le Saint-Esprit pour faire ces choses. Maintenant, lorsqu'il est parti, il a dit, « Il est avantageux pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, voyez-vous. Alors lorsqu'il vient, il convaincra le monde de péché, il enseignera la justice, il vous montrera les choses à venir. » Cela, ce sont des visions. Il prendra les choses que je vous ai enseignées et il vous les révélera. Les paroles mêmes qu'il est venu, aucun homme ne peut venir et comprendre la parole en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'un homme dit qu'il a le Saint-Esprit et doute que la parole est vraie, il y a quelque chose de faux. Paul était un critique du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Paul était un critique du christianisme, Saul. Et lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, il est allé 3 ans en Asie et il étudia les Écritures parce qu'il avait été enseigné sous Gamaliel, un grand enseignant. Alors lorsqu'il est revenu, et 14 ans plus tard, il est allé rencontrer Pierre à Jérusalem, il découvrit qu'ils avaient fait prêcher, qu'ils étaient parole par parole, le même Évangile, le même Dieu qui avait fait prêcher Pierre le jour de la Pentecôte, et qui leur avait dit de se repentir et d'être baptisés dans le nom de Jésus-Christ, ce même Saint-Esprit le révéla à Paul. Et il leur dit dans Actes 19, après qu'il avait déjà été baptisé une fois par Jean, il dit, vous devez être baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous, le Saint-Esprit demeure droitement avec les Écritures. c'est la foi en cela qui déverrouille chaque mystère. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5,7, il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la Parole, le Christ, et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang, l'Esprit. Ces trois ne sont pas un, mais ils sont d'accord en un. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, car ils sont un. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. La sanctification, c'est par le sang. Au travers du sang vient la vie, voyez-vous. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Vous voyez, la puissance donnée à l'Église. Vous recevrez, quoi? La puissance, Actes 1:8. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous recevrez la puissance. Pas vous serez né de nouveau. Vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, voyez-vous. Vous recevrez la puissance après que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Mais d'abord, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et cela, c'est la puissance de Dieu, voyez-vous, pour manifester et démontrer que vous êtes, comme vous étiez humain et avez appris à parler et à marcher et faire les choses qu'un être humain fait, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous recevez la puissance d'agir comme des fils et des filles de Dieu. Pas surprenant que les gens agissent et font ce qu'ils font aujourd'hui. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit.